suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Subrepticement et lentement à la fois, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, une véritable révolution scientifique s'est fait jour. Une révolution dont, plus d'un siècle plus tard, nous n'avons sans doute pas complètement pris toute la mesure. Une révolution sans mort ni barricade, constate le sociologue Marc Joly dans un ouvrage magistral qui paraît ces jours-ci, un ouvrage qui se fixe pour ambition de retracer la naissance de ce qu'il appelle un nouveau régime de pensée scientifique. Dans ce livre, La Révolution sociologique, Marc Joly s'arrête un premier temps sur le parcours de l'autre fondateur de la sociologie française. Non pas Émile Durkheim et ses disciples dont nous parlions voici quelques semaines avec le jeune historien Thomas Hirsch à propos de l'invention du temps social, mais Gabriel Tarde, figure floue et controversée, oubliée avant d'être progressivement redécouverte. Mais Marc Joly, qui avait déjà consacré un ouvrage important à Norbert Elias, s'intéresse aussi à la fondation de la discipline sociologique outre-Rhin, et notamment au premier congrès de la Société allemande de sociologie, qui se tint à Francfort en 1910 et fut le théâtre de la compétition que se livraient déjà les trois figures tutélaires locales de la discipline, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel et Max Weber. Ces deux études de cas, en France puis en Allemagne, et leur comparaison autorisent Marc Joly à proposer dans la dernière partie de cet essai très ambitieux sur les enjeux de cette révolution scientifique, une réflexion à propos de la manière dont la sociologie s'est construite tout à la fois contre la psychologie et contre la philosophie, contraignant celle-ci à profondément se réinventer pour ne pas disparaître. Marc Joly est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées. Révolution, vous n'avez pas hésité à employer ce terme, Marc Joly, pour parler de ce qui se passe, non pas l'espace de 3 jours ou l'espace de 10 jours, mais sur une période autrement plus longue, un tiers de siècle peut-être, un peu plus. Une révolution lente, mais une révolution qui marque et qui transforme profondément, selon vous, non pas seulement des disciplines académiques, mais bien plus que ça, notre manière de penser et d'appréhender le monde. C'est bien ça dont il s'agit, Marc Joly.
Bah, disons que quand je parle de révolution et d'avènement d'un nouveau régime de pensée scientifique, c'est d'une certaine manière parce que la sociologie, elle parachève un mouvement extrêmement fort qui se déroule tout au long du 19e siècle, qui grosso modo va de la biologie à la question d'une pensée des faits sociaux comme fait sui generis. Donc elle parachève la formation d'un régime de pensée qui rebat complètement les cartes et la manière de penser l'humanité. Tous les aspects constitutifs de l'existence humaine sont révolutionnés par l'avènement de la biologie, de la paléanthropologie, de la philologie, d'une psychologie scientifique qui remplace une psychologie spiritualiste philosophique. Et la sociologie, ce qui se joue autour de la sociologie, c'est la fermeture de ce régime de pensée, une sorte de parachèvement de ce régime de pensée scientifique de l'humanité.
On peut dire que ça s'ouvre un peu avec l'invention de ce mot, le choix de ce mot par Auguste Comte.
Oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que Comte, ce qu'il fait, c'est qu'il rend pensable la sociologie à la fois comme science des faits sociaux et puis comme élément d'un ensemble de sciences. C'est-à-dire qu'il met la sociologie comme le sommet d'une épistémologie historique et différentielle. Donc il rend pensable cette science. Après, la réalisation sera un peu plus lente. Mais ce qui est amusant à étudier, c'est finalement la proximité qu'on va retrouver en France et en Allemagne, alors que c'est des champs qui sont très différents, qui sont structurés de manière très différente, avec Durkheim, Tarde à un moment donné, puis avec Tönnies, la figure de Tönnies, qui lui est d'une certaine manière, comme Durkheim, très conscient dans sa manière de penser la sociologie. On va retrouver à un moment donné la possibilité d'institutionnaliser la conception qu'on tienne de la sociologie en France et en Allemagne. Allemagne, à peu près vers la même époque.
Alors, France et Allemagne, c'est les deux terrains d'observation et d'enquête pour ce livre. Je le disais tout à l'heure, vous êtes chargé de recherche au CNRS, laboratoire Printemps. Vous avez consacré à Norbert Elias un livre qui s'appelait « Devenir Norbert Elias ». Donc, vous regardez aussi de près ce qui se joue en Allemagne. Là, vous faites le choix sur le versant français d'explorer, au fond, ce qui est probablement le moins connu, c'est-à-dire cette figure de Gabriel Tarde et un certain nombre d'autres personnes qui sont autour de Tarde et dont vous dévoilez finalement les parcours, les existences, les correspondances avec Tarde, parce que c'est aussi un travail qui repose beaucoup sur la lecture attentive des documents d'archives et des correspondances. Pourquoi ce choix de Tarde? Tout simplement parce que le versant durkheimien est beaucoup plus documenté. Je faisais référence tout à l'heure au livre de Thomas Hirsch dont nous avons parlé récemment. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à vous intéresser à Tarde, ou est-ce que c'est davantage finalement le côté un peu précurseur de Tarde qui vous a attiré, Marc Joly?
Pour répondre franchement, au départ, ce que je voulais faire, c'était d'étudier les rapports entre la psychologie et la sociologie vers la fin du 19e siècle. C'était ça mon objet, en fait. Et évidemment, la figure de Tarde, c'était intéressant. C'était vraiment l'auteur qui me permettait de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là et que je percevais comme une sorte de connexion naturelle qui s'opérait entre une psychologie physiologique très, très axée sur l'étude des phénomènes nerveux et d'un autre côté, la sociologie comme science des faits sociaux pensée en tant que fait sugeneris, que phénomène sugeneris. Donc Tarde, il symbolise un peu cette convergence. Donc c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur lui. J'ai essayé d'analyser autour de lui la diffusion du syntagme psychologie sociale. Et puis, ça m'a amené à m'intéresser à des auteurs qui étaient dans l'entourage de Durkheim, ce qui n'était pas, les Durkheimiens les plus proches de Durkheim. On va dire que Mauss et Huber ou Fauconnet, c'est les Durkheimiens purs et durs. Mais il y avait dans l'entourage de Durkheim, dans l'entourage de l'année sociologique, des acteurs importants. Célestin Bouglet, Paul Lapie, Gaston Richard, qui est une figure complètement oubliée.
Donc, oui, qu'on découvre. Oui, c'est passionnant.
C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a eu un numéro de revue récent sur Gaston Richard. Donc il y a des historiens de la sociologie qui commencent à le redécouvrir. Mais l'idée, c'était
qui va être le successeur de Durkheim à la chaire de sociologie de l'Université de Bordeaux.
Hein. Oui, ça a été le successeur de Durkheim. Ils s'étaient connus à l'ENS. Ils étaient proches sans être amis, mais disons qu'il y avait un rapport. Il était le spécialiste de tout ce qui touchait la sociologie de la criminalité dans l'année sociologique. Donc c'était quelqu'un qui, en fait, avait un projet de théorisation des faits sociaux qui se situait, grosso modo, entre Durkheim et Tarde.
On comprend son intérêt pour Tarde, parce que Tarde, c'est pas un philosophe formé à l'École normale supérieure. Tarde, c'est un magistrat, c'est un juriste qui passe l'essentiel de sa vie en province, dans la petite ville d'où il est originaire, Sarlat, et qui, comme son père, fait son droit, devient magistrat local avant d'occuper un poste au ministère de la Justice. Mais l'essentiel de sa carrière et le moment où il commence à écrire, c'est dans cette province, finalement très, très à distance des lieux de débat, j'imagine forcément parisiens à l'époque, et en tous les cas occupé principalement par ces jeunes normaliens philosophes qui vont inventer la sociologie. Lui, il l'invente depuis une toute autre histoire, qui est celle d'abord d'un intérêt pour la criminologie, du fait de sa profession de juriste.
Oui, bien sûr. Disons qu'il invente la sociologie parce que la sociologie dans l'air du temps. Et disons que ce qu'il arrive à faire, c'est d'articuler. Je dirais, il y a une multitude d'intérêts et une multitude de champs qui s'ouvrent vers la fin du 19e siècle. Et lui, en gros, il arrive à synthétiser tout ce qui se joue dans le champ de l'aliénisme, tout ce qui se joue en psychologie physiologique, et puis l'horizon de la sociologie qui s'ouvre dans les années 1890. Et ce qu'il fait, c'est que, il a un côté autodidacte, et ce qui va le lancer, c'est d'écrire dans la revue philosophique de Théodule Ribot. Donc là, il écrit ses premiers articles qui ont du succès, qui sont lus. Dans le champ de la criminologie, pareil, il est débattu, il participe à des congrès. Donc
il va critiquer les criminologues italiens.
Exactement, notamment. Il se fait connaître par une critique très très acérée de la théorie du criminel né de Cesare Lombroso et puis de ses disciples qui sont plutôt des juristes. Donc voilà, il arrive comme un auteur un peu voilà qui sort de nulle part et en même temps qui est reconnu dans les sphères parisiennes comme un auteur extrêmement original et qui a le mérite finalement à cette époque-là, il faut bien voir que par exemple les étiquettes de psychologie de sociologie sont très proches, c'est-à-dire que ce qu'on met dedans c'est la possibilité d'objectiver, d'historiser l'existence humaine. C'est-à-dire que c'est plus des a priori qui vont nous dire ce qu'est l'humanité. Non, c'est des choses qu'on peut étudier. Ce sont des processus qu'on peut étudier. Ce sont des phénomènes qu'on peut étudier objectivement et de manière complémentaire. Et ce qui se joue dans le rapprochement de la psychologie physiologique et de la sociologie, qui apparemment n'est pas forcément évident, mais qui paraît naturel pour tous les observateurs de l'époque, c'est ça, en fait. C'est une nouvelle image de l'humanité.
Et ça veut dire qu'au fond, on peut accéder à cette nouvelle discipline dans l'air du temps, à la mode en étant autodidacte, ce qui est extrêmement intéressant. Je voudrais qu'on bascule côté allemand, parce que finalement, cette mondanité, ce côté dans l'air du temps, à la mode de la sociologie, on le retrouve dans la situation allemande, en particulier à un moment décisif, qui est le premier congrès de l'association des sociologues allemands, avec un premier problème qui est d'ailleurs l'utilisation ou non du mot sociologie, parce que c'est un mot français, donc les Allemands rechigne un peu à l'utiliser. On le voit assez peu au début du XXe siècle, mais en 1910, c'est quand même ce mot qui est choisi pour créer cette association. Et lors de ce premier congrès, je vais vous laisser raconter, mais on assiste à une sorte d'incident, de tension entre ce qu'on regarde aujourd'hui, mais c'était de jeunes hommes à l'époque, comme trois figures majeures de l'histoire de la sociologie en général, en allemand, mais en général. Donc Georg Simmel, qui va parler le premier, et puis Ferdinand Tönnies, et puis enfin Max Weber, qui sont sensiblement du même âge, Weber étant
un peu plus jeune.
Un peu plus jeune, né en 1864, si je me souviens bien.
C'est ça, je crois.
Marc Joly.
Disons que quand j'ai travaillé sur Tarte pour le cas français, puis pour le cas allemand, puisque il se trouve que j'étais 2 ans à Berlin, il fallait que je trouve un objet. Et j'ai mis du temps à trouver, et c'est vrai que c'est un conflit qui n'est pas du tout connu. Même en Allemagne, j'ai cherché, on jette sur ce conflit un voile un peu pudique, hein, parce qu'il y a une dimension très patrimoniale dans la manière dont on écrit l'histoire de la sociologie. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que voilà, c'est des savants, des universitaires marginaux, c'est-à-dire que Tönnies n'a pas vraiment de poste, Simmel non plus, Weber s'est mis à l'écart, même si lui, il a eu une carrière extrêmement rapide et bon, c'est pour des raisons de santé qu'il renonce à l'enseignement. Donc ce sont des marginaux et en même temps des avant-gardistes qui vont lancer donc une société allemande de sociologie en 1900. Ça commence en 1909 et le premier congrès a lieu en octobre 1910 à Francfort après des réunions notamment à Berlin. Et là, il y a un conflit assez terrible qui va opposer Tönnies et Simmel. Alors, ça peut paraître un peu ridicule parce que c'est la question de savoir qui va ouvrir officiellement le congrès. Évidemment, derrière des querelles d'ego, il y a souvent, heureusement, des enjeux de fond et des enjeux scientifiques. Et là, ce qui se joue, c'est pour Tönnies. Pour Tönnies, c'est la légitimité de Simmel à se réclamer de la sociologie. Légitimité qu'il met en doute. Qu'il met en doute parce que il assimile Simmel à une sorte de philosophe impressionniste très marqué par le néo-kantisme. Et lui, Tönnies, estime que la sociologie a les moyens d'être autonome sur un plan théorique. Elle n'a pas besoin d'avoir une sorte de caution extérieure qui serait celle de la logique néo-kantienne pour avoir le droit d'exister. Donc voilà, j'ai essayé d'analyser, si vous voulez, tout ce qui se joue en amont de ce congrès et de comparer les trois discours prononcés par Simmel, Tönnies et Weber pour montrer que derrière, il y a vraiment les enjeux de fond que pose la naissance de la sociologie en Allemagne. Voilà. Et c'est vrai que ça, curieusement, ça avait jamais été fait. Et le conflit entre Simmel et Tönnies n'avait jamais été étudié de manière précise. Et c'est pas évident non plus parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais j'ai essayé de les retrouver.
Voilà. On voit la presse locale, le Frankfurter Zeitung, rendre compte de ce congrès. Enfin, c'est quand même un événement de la vie intellectuelle important à l'époque.
Bien sûr.
Et donc on est là dans ces moments de fondation. D'un côté, un moment un peu long, hein, toute l'œuvre de Tarde sur laquelle vous vous attardez, avec toutes ces figures autour de lui, ce qui permet le lien avec les Durkheimiens. Et puis d'un autre côté, ce moment plus ramassé de la sociologie allemande sur lequel vous vous penchez. Mmh. Et puis, votre livre, après ces deux temps qui sont très documentés historiquement, prend la forme d'un essai, au fond, dans lequel vous essayez de réfléchir sur ce qui s'est passé, comment caractériser ce que vous appelez une révolution scientifique, comment expliquer l'avènement de ce nouveau régime, cette manière de penser l'humanité, l'humain, l'homme, et la place dédiée à la sociologie dans ce nouveau régime de la connaissance.
Oui, ce qui m'a surpris au cours de mes recherches, c'est de me rendre compte à quel point ceux qui ont le mieux compris ce qui se jouait dans l'avènement de la sociologie, ce sont les philosophes, en fait. Et aussi bien en Allemagne qu'en France. En France, avec les fondateurs de la revue de métaphysique et de morale, qui ont parfaitement compris ce qui se joue dans cette convergence entre une psychologie physiologique axée sur l'étude de processus objectifs et la sociologie. Ils voient très bien.
Ils voient d'autant mieux que c'est inquiétant pour eux.
Oui, évidemment, ils voient ça comme une menace. En Allemagne, la menace, elle est vraiment symbolisée par les psychologues qui prétendent à occuper des chaires de philosophie. Il y a une sorte de réaction qui se structure, à laquelle participe notamment Zimmel. En France, c'est un peu différent, mais au-delà de l'enjeu disciplinaire, de la question à qui on va donner des chaires, en France, c'est pas des enjeux qu'on peut comme ça mettre de côté, parce que c'est très concret pour un jeune philosophe qui s'intéresse aux sciences sociales. C'est extrêmement difficile de trouver un poste, et c'est ce que je documente sur Gaston Richard notamment. Mais il y a un enjeu épistémologique beaucoup plus large, qui est l'image de l'humanité. À partir du moment où on pense les êtres humains au pluriel, à partir du moment où on peut référer ce qu'on dit de l'humanité à des disciplines scientifiques qui apportent des éléments de connaissance objective, ça change complètement la possibilité qu'on a de parler de l'existence humaine. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de la revue de métaphysique et de morale. C'est très simple. La raison pour laquelle les fondateurs de cette revue utilisent le mot métaphysique, c'est pour réagir à la psychologie physiologique, et morale, c'est pour réagir à la sociologie. C'est-à-dire qu'en gros, je parle un peu longtemps là, mais je voudrais juste finir là-dessus.
Non, je vous en prie.
C'est la sociologie, ce qu'elle remet en cause, c'est finalement l'espace accordé à la philosophie par Kant et par les néo-kantiens. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où la morale, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de vivre ensemble, et la question fondamentale des conditions de possibilité de la connaissance, à partir du moment où ces deux axes de développement, qui étaient ceux de la philosophie post-kantienne, deviennent l'objet d'une science qui est la sociologie, et d'une science qui parachève un régime de pensée qui est, en gros, peut être défini de biopsychosociologique, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'humanité, on peut le référer à trois dimensions constitutives qui sont biologiques, psychologiques et sociologiques, ça change tout. Ça change tout, et ça oblige les philosophes à trouver des modes de positionnement qui tiennent compte de ce fait. Voilà.
On reviendra sur la question des rapports avec la philosophie, mais précisons aussi que la sociologie se construit également contre la psychologie, qui aurait pu prétendre à occuper ce rôle, cette espèce de surplomb, au fond, dans les disciplines de la connaissance. Il y a là une tension très, très, très vive entre la sociologie et la psychologie.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il fallait faire, en fait, c'était de bien dissocier la rivalité de la sociologie avec la psychologie et la rivalité de la sociologie avec la philosophie. Ce qui se joue dans la rivalité de la sociologie de la psychologie, c'est effectivement la fermeture d'un nouveau régime de pensée scientifique. C'est-à-dire, c'est une rivalité qui est quand même matinée d'une forme d'alliance objective. Et en même temps, effectivement, soit c'est la psychologie, soit c'est la sociologie qui donne le dernier mot de cette nouvelle image de l'humanité, qui donne le dernier mot de cette nouvelle façon de penser les êtres humains. Donc, il y a une tension qui se joue. Tension qui est quand même, je l'ai dit, je le répète, matinée d'une complémentarité qui peut être pensée. Alors qu'avec la philosophie, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit on a un régime de pensée cohérent, quasi systémique, qui est celui que la sociologie parachève et rend pensable, dont elle rend pensable la mise en place, Et ça véhicule à la fois une nouvelle conception des conditions de possibilité de la connaissance et une nouvelle image de l'humanité, en dehors du fait qu'on a une science qui succède à d'autres sciences et puis qui, d'une certaine manière, enlève à la philosophie des objets qui étaient les siens, la morale et la connaissance. Bah, avec la philosophie, bah, qui est légitime pour penser la généralité, penser la possibilité d'énoncer généraux sur l'humanité et la possibilité de construire une image globale de l'humanité. C'est pas rien comme rivalité. Donc c'est des rivalités de nature différente, si vous voulez, entre la philosophie et la psychologie. Entre philosophie socio d'un côté, socio-psycho de l'autre.
Cette révolution, elle prend du temps. Vous datez du tournant du 19e et 20e, finalement, le moment où elle prend forme. Mais en fait, il faudra encore énormément de temps pour véritablement que les effets de cette révolution se déploient et pour que soit prise en compte cette révolution par un certain nombre, pourtant, des acteurs intellectuels les plus impliqués. En vous lisant, je repensais à ce que disait récemment, dans un entretien à voix nue que j'ai réalisé pour France Culture, Jean-Claude Passeron, lorsqu'il confiait qu'un cours de Michel Foucault, qu'il a reçu à l'École normale supérieure au milieu des années 50, un cours de psychologie, a été très très important pour lui dans la distance qu'il a décidé de prendre à l'égard de la philosophie, lui qui par ailleurs sera reçu quelques années plus tard major à l'agrégation de philosophie. Cette découverte d'une science humaine, la psychologie, ce désir, cet attrait pour cette science humaine a été très très fort. C'est ce qui l'a fait quitter la psychologie. Pourtant, il n'est pas devenu psychologue. Est-ce qu'il l'a rendu sociologue? Et au fond, le hasard d'un poste à l'université qui lui a été offert par Raymond Aron sur le conseil de son ami Paul Venn. Et c'est donc un peu par hasard qu'il est devenu sociologue, prenant la suite de Pierre Bourdieu à la Sorbonne, mais de toute façon, il était acquis pour lui qu'il ne ferait pas de philosophie, mais il ferait plutôt a priori de la psychologie. Puis finalement, c'est le hasard, c'est la sociologie. Donc en fait, on est au milieu des années 1950, et cette situation-là, pour un jeune philosophe normalien, est encore possible. Donc la révolution n'a pas complètement fini de produire ses effets, Marc Joly.
Oui, j'ai écouté cet entretien, ce que vous venez de dire, ça m'avait évidemment parlé, parce que je retrouvais chez Passeron les mêmes hésitations qu'on avait 50 ans, 60 ans auparavant, des jeunes normaliens qui se disent je vais pas faire carrière dans la philosophie, c'est pas possible, et qui hésitent en gros entre la psychologie et la sociologie. Et ce qui va déterminer le choix, ça peut être effectivement des contingences comme la possibilité de devenir assistant d'un professeur de sociologie, mais ça aurait pu être un professeur de psychologie. Il se trouve que le contexte a favorisé ce type d'orientation-là. Puis en plus, après, il y a la rencontre avec Bourdieu, ce qui, évidemment, a favorisé l'engagement dans une sociologie scientifique. Oui, je pense qu'on est au début de quelque chose de très profond.
Qui va durer d'autant plus longtemps qu'il y a une sorte de gel des sciences sociales, quand même, entre la fin des années 30 et puis...
Bien sûr.
Le début des années 60, on va dire, où ça c'est la biographie de Lévi-Strauss par Emmanuel Loyer qui permet de le comprendre assez bien. C'est-à-dire que dès lors que Mauss n'est plus est toujours en vie mais plus vraiment capable de faire de la recherche et de travailler, les choses s'arrêtent en quelque sorte dans ce pays.
Oui, il y a des parallèles à faire. En ce moment, je travaille plutôt sur Bourdieu, donc effectivement, il y a des parallèles à faire entre le moment fin 19e, début 20e et puis ce qui se rejoue dans une sorte de renaissance quasi durkheimienne au début des années 60 avec Bourdieu, Passeron. Il y a des parallèles à faire, effectivement. Oui.
Je voulais qu'on termine par ce que vous dites, qui est très dur aussi en conclusion de votre livre, Marc Joly, et qu'on revienne à la question des relations entre la philosophie et la sociologie. Vous écrivez et vous terminez votre livre ainsi: la philosophie, mère des sciences, ne se reconnaissant plus dans ses propres enfants et tentée de les renier pour refaire sa vie, fut concernée au premier chef. À vrai dire, la sociologie ne lui laissa guère d'autre choix que celui de la rupture, une rupture définitive mais non dépourvue de style, avec la réalité des sciences et partant avec une certaine réalité du monde. Qu'est devenue la philosophie? C'est une histoire tragique que vous racontez.
Disons que les philosophes en ont parfaitement conscience et que vous ne pouvez pas lire un philosophe, disons, qui se pose vraiment des questions sur la survie de la philosophie, tous, je dirais, il n'y a pas un philosophe de la première moitié du XXe siècle qui, d'une façon ou d'une autre, ne se pose pas la question de savoir si faire de la philosophie a encore un sens. Que ce soit Wittgenstein, que ce soit Russell, que ce soit même Heidegger à sa manière. Donc oui, il y a l'idée de pousser jusqu'au bout une thèse qui est de dire que la sociologie, et c'est comme ça que c'est reçu lorsqu'elle apparaît par ceux qui sont les mieux placés pour le comprendre, c'est-à-dire les philosophes de profession, de vocation, eh ben, a un côté qui défonctionnalise la philosophie. Et tout l'enjeu de la philosophie, je parle de la philosophie disciplinaire, de la philosophie dans l'espace universitaire, va être de se situer par rapport aux sciences et de trouver par rapport aux sciences une raison d'être. C'est un enjeu, ça forme quasiment, je dirais, il y a quasiment une unité discursive de la philosophie par rapport à cet enjeu. Voilà.
Et ce qui est frappant quand on vous lit quand même, et c'est pour ça que je disais en commençant cette émission qu'on n'avait pas pris la mesure de cette révolution, c'est que d'un côté, cette révolution, vous en faites l'histoire, elle saute aux yeux, elle est très claire, et en même temps, au début du 21e siècle, en France en tout cas, l'espace public peut donner le sentiment qu'elle ne s'est pas produite à certains égards, c'est-à-dire que la philosophie, l'histoire occupent des positions institutionnelles, et surtout aux yeux du grand public, qui n'ont que peu de choses à voir avec la réalité scientifique que vous décrivez, Marc Joly.
Bah, c'est un peu désespérant, ça. Il y a une pesanteur, effectivement. Pour ce qui est de la possibilité de définir un discours général sur le cours des choses, l'histoire et la philosophie paraissent encore plus légitimes que la sociologie. Et ça, c'est une question qu'il faut
légitime
creuser.
Pour parler de tout.
Oui, voilà, exactement.
Quand bien même il y a beaucoup plus de chercheurs en sociologie, par exemple, au CNRS que dans cette discipline qui est la philosophie.
C'est possible pour la philosophie, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un combat à mener pour faire comprendre effectivement ce qui se joue dans l'avènement de la sociologie et pour faire comprendre que la sociologie, contrairement à la philosophie, à l'histoire, sa prétention généralisante est indissociable d'un régime de pensée interdisciplinaire qui fait que, voilà, on est moins libre que les historiens ou les philosophes, mais d'un côté, ce qu'on peut dire est plus fondé parce que ça n'a de sens in fine qu'en étant rattaché à un régime de pensée pluriel où il faut trouver des modes d'articulation avec ce qui se joue dans les sciences biologiques et les sciences psychologiques au sens large. Voilà, donc il y a une forme de nécessité de clarifier tout ça. C'est un peu le but de ce bouquin.
Objectif atteint avec la révolution sociologique, de la naissance d'un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie 19e-20e siècle. C'est un livre de Marc Joly donc, qui paraît aux éditions La Découverte. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Bernard Laniel, à la réalisation Jean-Christophe Francis. C'est la conversation scientifique d'Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.